Sandra l'a évoqué, la rentrée approche. Et à l'église aussi, nous voulons connaître cette rentrée et nous avons prévu des choses à vivre ensemble avec ce nouveau départ qui est le mois de septembre. Et si vous avez, si vous fréquentez cette église depuis quelques mois, si vous avez été attentif aux annonces, à ce qui est écrit dans le bulletin, vous savez que nous voulons remettre en place ce que nous appelons des groupes de maison et que nous vous encourageons à les rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'un groupe de maison? C'est une terminologie chrétienne, évangélique. Peut-être que tout le monde n'est pas du sérail et ne connaît pas notre patois. Un groupe de maison, c'est un groupe de chrétiens de taille réduite qui se réunit dans la semaine, dans les maisons, pour que ce soit de façon informelle, avec une certaine simplicité, et qui se réunit autour de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le centre de ces réunions. Pourquoi faire de telles réunions? Pourquoi se retrouver dans les maisons? Si vous avez parcouru la Bible, vous savez qu'elle ne demande pas explicitement aux chrétiens d'organiser ce genre de réunion. Alors pourquoi? Est-ce une mode? C'est vrai que dans notre société se multiplient les petits groupes. Groupes de parole, groupes d'échange. C'est quelque chose qui marche bien, qui produit des fruits, dans lequel il se passe des choses. L'Église cède-t-elle à la même tendance? C'est ce que j'aimerais creuser avec vous ce matin, interroger le besoin que nous avons de nous réunir, que ce soit dans nos maisons ou ailleurs. Pourquoi nous réunissons-nous? Pourquoi nous réunissons-nous? Je le disais, Jésus n'a pas institué les groupes de maison. Il n'a d'ailleurs pas institué non plus le culte du dimanche matin. Mais Jésus est venu, par son sacrifice, se constituer un peuple. Nous le retrouvons dans la Bible, dans le livre de Tite, où il est écrit « Jésus-Christ s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Un peuple qui lui appartienne. Voilà ce que Jésus a voulu. Un peuple. Un peuple partage des choses en commun. Il partage une vie commune. Ce n'est pas forcément facile de l'envisager aujourd'hui. Aujourd'hui, notre société, nous-mêmes, avons perdu la notion du collectif, la notion d'appartenance. Aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup de nos concitoyens trouve important de se soumettre à l'intérêt supérieur de la nation. Que ce soit un pays ou que ce soit autre chose, c'est pareil. Dans les partis politiques, il y a multiplicité de courants et on se divise alors qu'on est là pour se rassembler. Dans l'entreprise également, on a de plus en plus de mal à adhérer aux objectifs de l'entreprise et on cherche son objectif personnel à bien faire son travail. On recherche à trouver sa place pour soi-même. Mais un peuple partage, met en commun. Il partage une vie commune, un objectif commun. Et par rapport à ce peuple, Jésus a dit deux choses. Deux choses qu'il a rassemblées en une seule, qu'il a rassemblées sous le chapeau de l'amour. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et je disais que dans cette parole, il y avait deux choses. La première, c'est tous reconnaîtront. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez. Cet amour, c'est un signe distinctif des chrétiens. C'est leur identité. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On ne les reconnaît pas à leur discours. On ne les reconnaît pas à leur confession de foi. Mais on les reconnaît à la qualité des relations qu'ils tissent entre eux. Et la deuxième chose sur cet amour, c'est que c'est un amour comme je vous ai aimé, dit Jésus. Jésus est le modèle de cet amour, le modèle concret, puisqu'il est venu sur la terre et il l'a vécu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné sa loi à Moïse, il fallait que le peuple se débrouille avec. Ça n'a pas marché. Dieu a envoyé Jésus pour montrer. Ses contemporains ont eu son exemple sous les yeux. Et nous l'avons dans le Nouveau Testament et en particulier dans les Évangiles. Nous avons vu comment il a rassemblé des disciples autour de lui, comment il a vécu au quotidien avec eux. Il a pris soin d'eux jour après jour, les enseignant, les reprenant lorsque c'était nécessaire, les encourageant, priant pour eux et se faisant serviteur d'eux. C'est cet amour que nous sommes appelés à vivre, cet amour comme Jésus, cet amour qui montre notre appartenance à Jésus. Et cet amour, il ne peut se vivre à distance. On ne peut que le vivre ensemble, les uns à côté des autres. Et c'est ainsi que les chrétiens ont besoin d'être ensemble, de se rassembler pour pouvoir vivre cet amour. Et de fait, les premiers chrétiens se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés à la fois parce que ça découlait de ce que Jésus demandait, mais également parce qu'ils en avaient envie. On voit dans la Bible que Jésus était suivi non pas seulement par les 12, mais par bien plus de fidèles qui avaient envie d'être là. Et on le voit en particulier quand il s'agit de remplacer Judas. Les disciples recherchent quelqu'un qui avait été là depuis le début jusqu'à la fin. Et il y en a. Il y en a qui ont accompagné ainsi le Seigneur tout le temps. Et on voit aussi au début des Actes des Apôtres, ils n'arrivent pas à se séparer après l'ascension de Jésus. Ils restent ensemble à Jérusalem. On le voit également au départ de l'Église. C'est dans Acte 2. Le Saint-Esprit est répandu sur les apôtres à la Pentecôte. Et suite à cet événement bruyant, beaucoup se convertissent. Et voici ce qui est écrit, acte 2, 42, et puis ensuite versets 44 à 47. Les nouveaux convertis s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ces versets sont très stimulants. On y voit les chrétiens être tout le temps ensemble. Tellement proches qu'ils choisissent de vivre d'une façon communautaire, mettant tout en commun. Alors cette façon de vivre n'a pas duré, en particulier la persécution a dispersé les chrétiens. Mais dans la suite d'Actes des Apôtres, on les voit, les chrétiens, quand même se retrouver de façon informelle. Par exemple, dans Actes 12, ils se réunissent dans les maisons pour prier. Dans Actes 20, on retrouve Paul qui enseigne de façon informelle le soir dans une maison. Donc, Jésus n'a pas commandé de se rassembler, de le faire d'une certaine façon, mais on le voit que pour vivre cet amour, il faut le faire, et en tout cas les premiers chrétiens l'ont compris et l'ont fait spontanément. Il y a autre chose dans le Nouveau Testament qui plaide pour une vie en commun, pour être proches les uns des autres. Il y a une expression dans le Nouveau Testament qui est utilisée de nombreuses fois et qui est traduite en français très souvent par « les uns les autres ». Il y a beaucoup de choses à faire, les uns les autres, les uns aux autres, les uns avec les autres. Il y a des outils formidables pour étudier la Bible, et moi j'en ai trouvé un qui m'a sorti toutes les fois où ça apparaissait dans le Nouveau Testament, et j'ai compté une cinquantaine de fois où ce terme est employé pour parler de ce que font les croyants ensemble. Déjà, il y a l'ordre de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et cet ordre est répété une bonne dizaine de fois dans tout le Nouveau Testament. Et nous avons vu que cet amour, c'est pas une appartenance, c'est quelque chose de concret. Quelque chose de concret qui se vit. Et dans beaucoup d'épîtres, de lettres qui ont été envoyées aux chrétiens, il y a des conseils sur comment vivre cela ensemble. Alors, je ne vais pas reprendre les 50 fois où sont employés ces termes, mais j'ai noté trois directions qui me semblent importantes pour être soulignées. Déjà, les chrétiens sont invités à être bons les uns envers les autres, à user de charité. Avoir de la charité, c'est avoir un amour concret, un amour mis en pratique, selon ce dont l'autre a besoin. Et c'est détaillé. Il est demandé aux chrétiens d'être plein d'affection les uns envers les autres, d'user de prévenance réciproque les uns envers les autres. Les Épîtres rappellent ainsi qu'aimer, c'est des actes concrets, c'est se soucier de l'autre, dans un premier temps savoir ce dont il a besoin et lui donner lorsque l'on peut. Tendre la main lorsque c'est en notre pouvoir. Et même plus loin, il est demandé aux chrétiens d'être serviteurs les uns des autres. C'est la première direction. J'en souligne une deuxième. Priez les uns pour les autres. Prier, c'est se tourner vers Dieu, lui parler pour lui demander de réaliser sa volonté pour ce qui nous préoccupe. Mais pas seulement pour nos vies, mais aussi pour celles de nos frères et sœurs, pour ceux qui les préoccupent. Et ainsi, il est demandé aux chrétiens de porter les fardeaux les uns des autres. Ce qui est lourd, ce qui sont des soucis, eh bien les partager, les vivre avec eux. Il est demandé également d'avoir les mêmes sentiments, c'est-à-dire se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Être membre du peuple de Dieu, c'est avoir un réel souci les uns pour les autres, un souci qui nous occupe et nous pousse à nous répandre devant Dieu dans la prière. Et la troisième direction que j'aimerais souligner, c'est que les chrétiens sont invités à s'édifier les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres, est-il écrit. S'édifier, c'est comme on édifie un bâtiment, c'est une construction. Construisez-vous les uns les autres. Il s'agit de nous donner ce qui est nécessaire pour grandir, participer à l'enseignement. L'enseignement pour que chacun sache comment vivre la vie chrétienne. Là encore, c'est décliné à certains endroits. Exhortez-vous les uns les autres, c'est-à-dire encourageons-nous, stimulons-nous. Également, confessez vos péchés les uns aux autres. Parlez les uns aux autres de nos luttes, de nos difficultés à être fidèles à la parole du Seigneur. Être honnête sur nos faux pas pour être encouragé par les autres. Et également, veillez les uns sur les autres. Veillez sur notre croissance. Voilà ce qui est demandé aux membres du peuple de Dieu. Participez à la croissance de chacun, que ce soit par l'enseignement, par l'encouragement, par la reprise, si nécessaire. Être bons les uns envers les autres, prier les uns pour les autres, s'édifier les uns les autres, et je vous l'ai dit, il y a encore d'autres directions qui sont données, mais comment vivre tout cela sans se réunir, sans nous retrouver, sans être ensemble? Nous avons vu comment l'ont fait les premiers chrétiens, mais comment le faire nous aujourd'hui? Finalement, c'est ça et qui nous intéresse. Comment pouvons-nous vivre cet amour demandé par Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous misons beaucoup sur le culte. La réunion où nous sommes ce matin, c'est deux heures et demie passées ensemble. Nous l'avons vu, ce n'est pas Jésus qui a institué le culte, qui nous a demandé de nous réunir tous les dimanches matins. Mais c'est une tradition très ancienne. Très tôt, les premiers chrétiens ont choisi le premier jour de la semaine pour se réunir. Et aujourd'hui, où dans nos pays, c'est un jour chômé, c'est d'autant plus pertinent de poursuivre cette tradition et de nous retrouver tous ensemble. Le culte est une belle occasion. C'est génial de nous retrouver tous ensemble, de voir cette communauté qui s'est choisie pour rendre gloire à Dieu ici et porter des projets ensemble. Et nous aurions tort de mépriser le culte. C'est l'endroit où nous nous réunissons, tous ensemble, sans préférence, sans distinction. Nous avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu prêchée par un prédicateur reconnu par l'Église. Nous avons l'occasion de louer Dieu ensemble, d'être stimulés par le nombre que nous formons, par la qualité de l'accompagnement musical qui nous entraîne. Mais je suis persuadé que le culte seul ne permet pas de vivre toute la richesse de la vie chrétienne. Nous parlions de nous édifier les uns les autres. Alors au culte, nous recevons une partie d'enseignement à travers la prédication. Mais c'est un peu un sens unique. Je parle, vous écoutez. Or, la Bible nous enseigne, le Nouveau Testament nous enseigne qu'il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de personne instituée qui ait reçu un sacrement pour parler aux autres et les autres n'ont qu'à se taire. Non, on parle de sacerdoce universel, que tous les chrétiens sont prêtres, tous les chrétiens participent au culte rendu et tous les chrétiens participent à l'enseignement. Tous ont quelque chose à apporter. Les chrétiens expérimentés partagent leur expérience, le chemin qu'ils ont connu avec le Seigneur. Comment ils ont pu surmonter les luttes, comment ils ont pu tenir. Les chrétiens jeunes communiquent leur enthousiasme, l'enthousiasme de la découverte de cette vie nouvelle, de cette vie sauvée. Cet enthousiasme qui peut parfois s'émousser avec le temps. Et tous ont des questions à poser. Tous ont des éclaircissements à apporter. Tous ont des paroles de sagesse à partager. Et cette richesse d'échange est difficile à mettre en place au culte. Avec le nombre que nous sommes, avec une durée que nous voulons plus ou moins respecter. De même, prier les uns pour les autres. Nous nous attachons à avoir un moment de prière pendant le culte où nous pouvons prier pour ceux qui ont des sujets de prière importants, que ce soit de grandes réjouissances, un mariage, une naissance, ou alors de grandes peines, un décès, une maladie inquiétante, le chômage, une situation de chômage qui dure. Tout ceci, nous le faisons au culte, mais pour les préoccupations quotidiennes, c'est plus difficile d'utiliser ce temps. Il est difficile de donner la parole à chacun pour des soucis avec des voisins, pour le grand qui nous cause des soucis, pour les difficultés du petit dernier à l'école, pour la douleur d'un célibat qui dure. Nous avons du mal à utiliser ce temps pour partager la joie d'avoir pu témoigner avec un collègue, partager la joie d'avoir vu Dieu répondre à telle ou telle prière. Comme je disais, c'est difficile, encore une fois, par le nombre que nous sommes, par le format du culte, de donner la parole à chacun pour partager tous ces éléments, et pourtant, ils sont si riches. Et puis la troisième direction, c'était d'être bon les uns avec les autres. Là aussi, on essaye de le mettre en place en Église. Et je crois que les différents services qui se mettent en place dans l'Église sont une façon d'être bon les uns avec les autres. Que ce soit le ménage que nous faisons ici à tour de rôle, ou les responsabilités que nous pouvons prendre avec l'enseignement des enfants à l'école du dimanche. Que ce soit les services techniques autour du culte, sonorisation, vidéoprojection, ou que ce soit l'animation du culte devant, vu par tout le monde. Que ce soit l'accueil quand on arrive, que ce soit la décoration de la salle. Tout ceci, c'est un vrai service qui est offert à nos frères, à nos sœurs, et c'est un moyen d'être bons les uns avec les autres, de répondre ainsi au commandement de notre Seigneur. Mais nous sommes aussi appelés à des actes d'amour plus personnalisés. Parfois, à donner un coup de pouce financier quand on sait qu'il y a un besoin. Parfois, offrir de garder les enfants un jour où on sait que notre frère, notre sœur ne sait pas comment s'en sortir. Parfois, venir donner un coup de main pratique, par exemple monter un meuble à quelqu'un qui est seul chez lui. Et pour savoir tout cela, il faut connaître les besoins. Il faut nous connaître et nous avons besoin de proximité. Il est difficile de développer cette proximité en nous voyant 2h30 par semaine, surtout quand 2 heures sont consacrées à être assis, en tout cas tourné vers l'estrade pour chanter ou écouter la prédication. Et c'est pour cela que notre Église veut mettre en place des groupes de maisons à la rentrée. En tout cas, remettre en place, en mettre en place d'autres et vous encourager à y participer. Ces groupes de maisons veulent être un moyen de vivre la foi de façon active, de façon participante. Alors, ce n'est pas du tout la seule possibilité pour vivre une telle foi. On peut tout à fait vivre l'amour concret de Jésus sans passer par un groupe de maisons. Je crois que ça a été fait pendant des siècles et je crois que cela se fait encore aujourd'hui. On peut très bien tisser son réseau et discerner ainsi comment aider les gens, partager ainsi leurs préoccupations et prier pour eux. On peut s'édifier les uns les autres en toutes circonstances. Mais je pense que le groupe de maison, c'est un bon moyen qui nous est offert de faire cela par le petit nombre de personnes qu'il rassemble. Ce petit nombre permet de se connaître plus rapidement, d'être plus impliqué dans nos relations, en étant moins anonyme. Je le disais au début, c'est un peu une mode de notre société que ces petits groupes, il y a des groupes de parole, où chacun vient partager son ressenti sur les situations qu'il vit. Il y a des groupes de réflexion où chacun partage son point de vue. Ce petit groupe, c'est un mode de fonctionnement qui parle aux Occidentaux du XXIe siècle que nous sommes. Mais attention, nous voulons vivre ces groupes de façon différente. Ce n'est pas un lieu de parole où les expériences de chacun sont mises en valeur. Ce n'est pas un lieu de partage où chaque point de vue se vaut. C'est un lieu centré sur la parole de Dieu et où les partages qui sont faits les uns entre les autres viennent puiser leur source dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est là, présente, pour y être étudiée et pour être le prisme par lequel nous voulons comprendre nos vies et vivre nos relations. Je crois que les groupes de maison, c'est un lieu où nous pouvons vivre ce qui est demandé aux chrétiens. Mais ce n'est pas une fin en soi. Nous ne voulons pas mettre en place des groupes de maison pour dire « ça y est, nous l'avons fait ». Nous ne voulons pas nous glorifier d'avoir réussi à mettre ça en place dans notre Église. Ce que nous voulons avant tout, c'est tisser avec d'autres des liens fraternels authentiques. C'est prendre le temps de prier les uns pour les autres. Prendre le temps de partager des fardeaux et des sujets de joie. De bénéficier de l'expérience des chrétiens aguerris comme de l'enthousiasme des jeunes chrétiens. De réfléchir à la mise en pratique de ce qu'enseigne la Bible. De poser ces questions pour mieux la comprendre. C'est un lieu pour utiliser les dons spirituels que nous avons reçus de la part du Seigneur. C'est un lieu où nous pouvons être tous prêtres et vivre ainsi le sacerdoce universel voulu par Dieu. Et si nous pouvons vivre ça à travers un groupe de maison, eh bien, ne nous en privons pas. Que retenir au moment de conclure ce temps de prédication? Ce que j'aimerais que nous retenions avant tout, c'est l'amour. L'amour qui est le signe distinctif des chrétiens. Cet amour suivant le modèle de Jésus. Un amour qui se vit concrètement, qui se vit dans la proximité les uns aux autres, qui se montre par des actes, qui partage les préoccupations les uns des autres, qui contribue à nous édifier. pour vivre cet amour, ne vous contentez pas de 2 heures de culte hebdomadaire. Notre Église met en place des groupes de maison, ça peut être un bon moyen de vivre cet amour concret et proche. Mais de toute manière, recherchons à vivre cet amour pratique à l'image de ce qu'a eu Jésus et qui montre au monde que nous sommes à lui. J'aimerais terminer en donnant la parole à l'apôtre Jean. Dans sa première épître, au chapitre 4, qui écrit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.